Candide et les experts. Une émission produite par Monique Fauché.
Ce fut un formidable projet franco-anglais qui fut mené à bien. Remarquable aventure humaine de la conception à la réalisation qui donna le jour à un magnifique ouvrage, Le Concorde. Que de louanges pour parler de cet avion, mais il faut le dire, il est encore et toujours très beau. N'est-ce pas, Jean-Marc Olivier ?
Ah, c'est sûr, on trouve une multitude d'appellations, le bel oiseau, etc.
Voilà, toujours, et c'est vrai qu'il avait une belle ligne. Et vous avez écrit, vous, 1969, Concorde, premier vol, paru aux éditions Midi Pyrénéennes. Édition sur laquelle j'attire d'ailleurs l'attention de nos auditeurs. En effet, sous un format relativement modeste, ces ouvrages traitent de sujets historiques ou sociétaux d'une manière extrêmement sérieuse et approfondie. Il s'agit des éditions donc Midi Pyrénéennes. Alors Jean-Marc Olivier, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Toulouse-Jean Jaurès et vous vous intéressez particulièrement à l'aéronautique et à la conquête spatiale. Alors, je ne désespère pas d'avoir un jour un de vos ouvrages sur la conquête spatiale.
Oui, alors je suis plus aéronautique que conquête spatiale, mais je m'intéresse aussi à la conquête spatiale.
Alors, dans cet ouvrage donc, que je viens de citer, 1969, Concorde, premier vol, opportunément, ça va nous rafraîchir la mémoire, puisque vous nous faites, vous faites découvrir au moins de 40 ans une aventure fabuleuse. Alors ce titre, donc Concorde, premier vol, 1969, et avant de voir pourquoi le projet d'un avion supersonique a-t-il vu le jour, parlons peut-être de cette époque. On sortait de la guerre, bon, il y avait quelques années, mais quand même, on se remettait à flot, non ? C'est important.
Oui, ceci dit, il y a le phénomène de ce qu'on a appelé a posteriori les 30 glorieuses, hein, où il y a une croissance pratiquement sans crise de 1945-46 jusqu'en 1973.
Oui. Donc ça la croissance quand même en 1945, on était un peu déplumé quand même. Hein.
Ah oui, on part de très bas, donc ça facilite la croissance et la reconstruction. Mais les années 60, c'est quand même l'apparition d'une société de consommation en France qui est un phénomène nouveau, quoi, où les gens dépensent plus pour s'acheter des biens dits superflus que pour se nourrir, se loger, se vêtir. Ce que les États-Unis avaient connu dès les années 1920 arrive enfin en Europe occidentale.
Oui, parce que les États-Unis n'ont pas souffert comme les pays européens de la Seconde Guerre mondiale.
Ah ben non.
Pas de la même manière,
tout
en tout
à
cas.
Fait.
Oui. Alors, en plus, en 62, à peu près, c'était la guerre froide.
Ah oui, ça commence même avant, mais oui, parce que le phénomène de guerre froide s'établit très vite, hein, dès les années, la deuxième moitié des années, enfin fin des années 40, on entre dans une phase très tendue, oui.
La guerre d'Algérie ?
Oui, bien sûr, qui se termine seulement en 1962, oui, effectivement.
Voilà, et puis le général de Gaulle revenu au pouvoir. Alors là, j'attire l'attention de nos auditeurs sur le fait que justement, il y avait le général de Gaulle. Et je crois qu'il ne devait pas être hostile à un objet marquant.
Ah non, il a soutenu le projet dès ses débuts. D'ailleurs, on a des illustrations de la visite du général de Gaulle à Toulouse-Blagnac dès 1959. Vous voyez, quand on commence à esquisser seulement des projets, certains ont déjà été réalisés, mais n'ont pas été des grands succès. Hein. C'était des projets qui dataient même d'avant la Seconde Guerre mondiale, comme l'avion Languedoc, mais c'est des avions classiques à hélice. Hein. Ou ensuite, il y a l'avion l'Armagnac, premier vol en 1949, entré en service en 1952, mais dépassé, produit par ce qu'on appelle la SNKZ, hein, une entreprise nationalisée, héritière du Front populaire de 1936, vendu à 9 exemplaires, l'Armagnac. Donc, la France connaît quand même un demi-succès, mais avec un avion moyen courrier, célèbre, lui. Il y en a un exemplaire au musée Aéroscopia à Toulouse-Blagnac. La Caravelle, donc, premier vol en 1955, entré en service en 59. Et là, on a quand même presque 300 exemplaires produits. Et,
bon, mais je vais vous dire, c'est un avion qui m'a inspiré confiance. Je l'ai pris pour aller en Algérie et on m'avait dit, de toute façon, cet avion peut planer quelque temps.
Oui, c'est bon signe. Hein.
Oui, on a ses chances.
Oui, parce qu'il a des ailes classiques. Ce n'est pas un avion supersonique. Hein. Ouais. Oui, mais ce n'est pas le cas du Concorde, qui lui a des ailes delta. Donc, très peu de portance.
Très peu de portance, voilà. Donc, En fait, donc, je pense que le général de Gaulle souhaitait redonner à la France, redorer le blason de la France.
Oui, oui, parce que la Caravelle ne s'est pas vendue aux États-Unis. Le principal marché aéronautique, jusque dans les années 60, 70 et même un peu après, ce sont les États-Unis où il y a une société de consommation bien installée, une utilisation de l'avion qui s'explique aussi par les grandes distances.
Bien sûr.
L'immense mégalopole autour de New York, enfin de Boston à Philadelphie, est peuplée de gens qui ont un niveau de vie élevé, pas tous, mais quand même, beaucoup de gens qui ont un niveau de vie élevé, et ils veulent aller au soleil. En hiver, donc ils vont en Floride et puis ils vont même jusqu'en Californie, donc ils prennent l'avion.
Parce qu'il y a quand même une très grande différence entre le niveau de vie des pays européens qui, marqué par la guerre malgré tout.
Oui, ça reste marqué par la guerre.
Que ce soit l'Angleterre comme la France, évidemment, même l'Allemagne, par rapport aux États-Unis. N'oublions pas qu'ils sont venus nous aider, cependant. Bon, alors, en fait, on voit aussi que l'avion tente de supplanter le bateau et le train.
Oui. Bien sûr, le bateau est très lent et le train ne traverse pas les océans.
Oui.
Oui, donc on est là dans une concurrence impossible pour les bateaux et les trains face aux avions. Alors, surtout si on prend le cas du Concorde, puisque le Concorde, avec Mach 2, c'est Paris-New York.
Il arrivait avant d'être parti.
Voilà, du point de vue horaire, grâce au fuseau horaire, à condition d'être dans le sens Londres ou Paris-New York.
Pas l'inverse.
Voilà, vous arrivez avant d'être parti. Vous partez vers 10h30, 11h, je ne sais plus exactement. Vous avez 3h25 de vol, dont à peu près 3h à Mach 2, donc plus de deux fois la vitesse du son, même un peu plus de Mach 2. Et vous arrivez à l'ouverture des bureaux, 8h30, 9h, je crois, le matin à New York.
Voilà, alors d'où la nécessité d'un avion supersonique.
Ah oui, c'est
alors,
un rêve.
Est-ce
oui.
que vous pouvez expliquer à nos auditeurs et auditrices ce que c'est qu'un avion supersonique?
C'est un avion qui franchit le mur du son, comme l'ont fait certains avions dès la deuxième moitié des années 40, aux États-Unis en premier, puis des avions militaires. En France, il y a Mirage 3, Mirage 4 surtout, hein, le vecteur de la bombe atomique qui est en service. Ce sont des avions donc, qui passent le mur du son.
C'est-à-dire
et si on dit, pour faire simple, 1000 km/h.
D'accord.
Voilà. C'est plus que la vitesse du son, 300 mètres par seconde. Hein.
C'est pas mal, 1000 km/h.
Oui, mais Mach 2, c'est plus de 2000 km/h, puisque c'est deux fois la vitesse du son.
Alors là, attendez, le Concorde, c'est quoi?
C'est Mach 2. Eh oui.
Ah oui.
Eh oui, oui.
Et alors oui, on en parlera aussi parce que quelqu'un étant monté dans cet avion a dit c'est extraordinaire, on ne se rend pas compte qu'on va à une telle allure.
Et non, l'avion est relativement stable, oui, adapté. Ouais, il a un fuselage très étroit. Hein. Après, c'est un avion de taille relativement modeste. Hein.
Il y a étroit, il est étroit.
Ah ben bien sûr, pour l'aérodynamisme.
Et l'allure, oui,
le nez, bien sûr, le fameux nez qui s'abaisse, hein, parce qu'il y a tout un tas de contraintes techniques. Hein. Il est obligé d'avoir des ailes qui sont des ailes triangulaires, en quelque sorte, des ailes un peu delta, comme les avions de chasse. Hein. Et donc, il a très peu de portance. Donc, pour décoller, il doit aller très vite. Hein, pour cela, il doit se cabrer aussi pour avoir cette portance, d'où son train d'atterrissage assez haut, d'où les problèmes de vision pour l'équipage, donc ce nez qui s'abaisse.
Ah oui, ils étaient très bas, l'équipage.
Pour atterrir ou pour décoller, c'est pas évident. Il faut abaisser ce nez aérodynamique.
C'était les meilleurs pilotes, on en parlera
à Oui, tout à fait.
Donc là, il allait à peu près à 2000 km/h.
Oui, voilà, une fois au-dessus de l'océan. Parce qu'il n'a pas le droit de voler à une vitesse supersonique au-dessus des terres à cause du bang supersonique qu'il emmène avec lui. Un avion qui, à une vitesse supersonique, entraîne le fameux boom, le bang supersonique avec lui qui dépasse largement les 100 décibels. Ouais.
Puisqu'il a été, il a été construit à Toulouse, je me suis demandé si on entendait à Toulouse. Mais non, il n'avait pas le temps encore de passer le mur du son.
Alors non, il ne l'a pas trop fait au-dessus des terres, hein, mais il était quand même bruyant quand il descendait, et surtout quand il décollait, plus que quand il atterrissait, parce que pour que cet avion réussisse à décoller, il faut une très forte poussée, vu qu'il a très peu de portance. Hein, donc il faut qu'il vole très vite. Et pour cela, on déclenche ce qu'on appelle la post-combustion, c'est-à-dire qu'on injecte à la sortie des réacteurs du kérosène. Donc, c'est assez bruyant. Et puis, vous avez des petites retombées aussi de kérosène sur le sol. Et donc, c'est quand même des réacteurs relativement bruyants. Et à Toulouse, on savait quand le Concorde passait. On savait que c'était lui quand même. Mais il n'était pas à une vitesse supersonique, évidemment.
Et il faut dire que les Toulousains n'étaient pas peu fiers d'avoir leur Concorde.
Ils disaient que non, ça faisait pas de bruit. Alors après, bon, comme j'ai sympathisé avec mes collègues et qu'on est longtemps après l'arrêt du Concorde en 2003, ils ont fini par m'avouer, parce qu'à l'Université Toulouse Jean Jaurès, ou le Mirail pour les anciens, on est en dessous littéralement de la voie d'approche pour l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Et donc il me disait, bah oui, quand c'était le Concorde qui se prépare, qui décollait...
Les étudiants n'entendaient plus.
Voilà, on arrêtait de faire cours. Il fallait attendre un petit peu. Mais au début, il ne le disait pas. Il dit non, non, il ne fait pas de bruit.
Jean-Marc Olivier, nous devons arrêter là, mais nous reprenons la semaine prochaine, si vous le voulez bien.
Avec plaisir.